Le texte que nous allons commenter se trouve en Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. En voici la lecture. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Alors ici, la première chose qu'il convient de dire est en rapport avec ce qu'on appelle l'analyse historique ou historico-critique du texte. Ce passage qui se trouve en Isaïe 60 se trouve dans la section que l'on dit du livre d'Ésaïe, le Trito-Ésaïe. Il faut savoir que le livre d'Ésaïe est en gros divisé en trois parties. La première partie qui est attribuée à Isaïe lui-même, du chapitre 1 à 39, est le chapitre 41 à, il me semble, 55, est attribué à un Deutéro-Isaïe qui aurait rédigé, contrairement à Isaïe, lui, Isaïe a rédigé ses prophéties au 8e siècle, alors que le Deutéro-Isaïe se trouve à la fin de l'exil de Babylone, c'est-à-dire vers 537. Et le Trito-Isaïe, lui, du chapitre 56 au chapitre 66, aurait écrit encore un petit peu plus tard, quand les exilés vraiment sont de retour et doivent faire face à leurs dures conditions de retour. Bon, il faut savoir que dans le livre d'Isaïe, il n'y a pas que ces trois auteurs qui ont écrit, mais bien d'autres, et c'est un peu ce livre comme une cathédrale, où beaucoup d'auteurs se sont superposés, et même dans certaines sections, comme la section première, Isaïe, se trouvent des écrits qu'on peut attribuer aux Deutéro-Isaïe, etc. Alors, ce chapitre, justement, devrait être attribué au Trito-Isaïe, et on se demande si c'est pas ce qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire le prophète qui aurait écrit à la charnière entre le retour de l'exil et la mise en place des exilés juste après leur retour. Alors, quoi qu'il en soit, ce livre est intéressant, ce passage, parce qu'il nous révèle beaucoup de choses. Il faut savoir que, ici, le prophète encourage les gens de Jérusalem à avoir le moral. Et on comprend mieux la valeur de cet encouragement quand on se souvient qu'au retour de l'exil, vers 537, les Juifs qui retournaient de l'exil de Babylone s'imaginaient que tout allait aller bien, que le Seigneur les avait pardonnés, c'est d'ailleurs le cas, et que en conséquence, leur vie comme exilés en retour de leur exil serait bordée de roses et qu'il n'y aurait pas de problème. Mais quand ils sont retournés sur leur terre initiale, plus de 50 ans après leur exil, eh bien c'est une toute autre réalité qui les attend. D'abord, les Juifs qui étaient restés sur place n'ont pas vu d'un bon œil ces exilés qui rentraient, comme le livre de Néhémie le fait voir. Ensuite, ils s'imaginaient, ces exilés de retour, que tout irait bien, que Israël retrouverait sa puissance d'antan à l'époque du roi Salomon, d'où l'allusion à Saba, alors que, en fait, Israël et Jérusalem ne deviendraient pas la capitale qu'ils escomptaient au niveau puissance terrestre. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que justement le prophète montre aux exilés que leur vraie richesse n'est pas dans la puissance jadis de Salomon, dans une puissance terrestre et commerciale, mais bien plutôt dans leur connaissance de Dieu. Et ça, c'est très important parce que avec ce passage d'Isaïe et ce Trito-Isaïe, quelque chose de nouveau se fait jour. C'est-à-dire que le judaïsme prend conscience de l'universalité de son Dieu et il apprend, le juif, à regarder l'hébreu de l'époque, à regarder au-delà des réalités matérielles, vers sa richesse qui est spirituelle. Alors c'est une démarche que nous devons épouser dans beaucoup de domaines. D'abord, quand dans notre vie, nous ne devons pas oublier de lever les yeux, de nous souvenir qu'il y a une réalité qui dépasse infiniment la réalité matérielle. Et de même, quand nous lisons les Écritures, il ne faut pas se contenter du sens historique, mais bien aller au-delà et chercher le sens spirituel, la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Voilà deux leçons qu'on peut retirer de cette lecture historique. Mais comme vous le voyez, le peuple hébreu, dans l'histoire de la composition de son livre, va découvrir la spiritualité, la lecture spirituelle de sa parole, la spiritualisation de son message. Jésus lui-même s'est trouvé confronté à ce manque de spiritualisation de la part de son peuple quand il a voulu faire comprendre que le Messie n'était pas un Messie guerrier et politique. Alors maintenant, je vous propose d'analyser ce passage, disons, petit bout par petit bout. Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Alors nous, c'est un appel à l'espérance. Malgré les réalités présentes dans lesquelles nous sommes, où le message de l'Église est peu entendu, où notre vie de foi semble attirer bien peu de gens, eh bien ici, on nous demande d'être debout, de resplendir, et de voir que la lumière et la gloire du Seigneur s'est levée. C'est-à-dire que nous sommes appelés à voir une réalité qui est encore en germe, mais à bien voir sa réalité qui se développe. C'est-à-dire, par exemple, dans le cœur de nos frères, cette Jérusalem, c'est aussi ce germe de Dieu qui est semé en eux et qui pour l'instant est bien petit. Eh bien, nous sommes appelés avec ce germe à nous mettre debout, à être confiants que par notre prière et notre amour, eh bien, ce germe va grandir et nous sommes appelés dès maintenant à resplendir. Alors, resplendir, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une attitude défaitiste et parfois aigrie, eh bien, soyons confiants et pleins d'espérance, ce qui doit renforcer notre prière, la ferveur de notre prière et la ferveur de notre charité pour nos frères, même ceux qui sont très loin et qui semblent être dans l'obscurité. Regarde. L'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. Alors ça renforce ce que je viens de dire. Nous devons, nous, chrétiens, être cette lumière. Nous devons être conscients que tout ce qui ne touche pas à Dieu, tout ce qui est éloigné de Dieu, ce sont les ténèbres. Ce monde, malgré ses joies qui semblent, oui, ses joies très superficielles, très éphémères, ce monde est dans l'obscurité. Et si nous, chrétiens, nous nous comportons comme les autres, eh bien, nous ne serons pas lumière. Nous devons, par la qualité de notre vie, de notre amour, être lumière dans les ténèbres, et aussi par notre prière. Dans le cœur de nos frères, il y a l'obscurité, tant qu'ils ne connaissent pas Dieu pleinement. Eh bien, notre rôle, c'est de semer la lumière dans leur cœur par notre prière pour eux, par notre intercession et par notre charité. Voilà, nous sommes chargés de faire briller la gloire de Dieu. De même, dans notre vie, il y a beaucoup de zones de notre vie qui sont dans l'obscurité, qui recouvrent notre terre, notre vie. Eh bien, le Seigneur, sa gloire brille. Soyons convaincus que nos efforts et notre prière feront briller sa gloire. Vous voyez ici le message d'espérance. C'est pareil aussi pour l'Église. Il faut penser à l'Église qui est tentée de se décourager face au manque d'audibilité de son message. Eh bien, ce texte nous dit que nous sommes comme des lumières dans l'obscurité. Vous voyez, l'obscurité recouvre la terre. Mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille. Nous avons un message. Soyons fidèles à notre Seigneur malgré les apparences, malgré les hostilités ou parfois les indifférences. Soyons convaincus que notre lumière finira par briller, que notre prière finira par faire germer cette grâce de Dieu dans le cœur de nos frères et dans nos propres vies. Alors, continuons. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. C'est une promesse, effectivement, si nous sommes fidèles à notre espérance, fidèles dans l'amour, la charité et la prière, eh bien, à un moment ou à un autre, les nations finiront par marcher. Les gens finiront par retourner dans l'Église, verront son message. De même, les gens pour qui nous prions, eh bien, petit à petit, toute leur vie va marcher vers cette lumière, c'est-à-dire cette grâce de Dieu qui est dans leur cœur, arrosée, épaulée par notre charité, notre prière. Eh bien, petit à petit, tous les pans de la vie de ceux pour qui nous prions, va marcher vers cette lumière divine qui est dans leur cœur. De même pour nous, nous devons être convaincus que effectivement notre vie petit à petit va s'ouvrir toujours davantage à Dieu, malgré les échecs apparents. Alors lève les yeux, regarde autour de toi, tous ils se rassemblent, ils arrivent, tes fils reviennent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Alors ici, voyez, on nous donne l'attitude qu'il faut avoir dans ce temps d'attente et de gestation. Nous devons avoir un cœur qui frémit, un cœur qui se dilate, un cœur marqué par l'amour, qui se manifeste d'abord par l'intercession fervente pour nos frères qui sont loin de Dieu. Et soyons convaincus que si nous avons cette attitude qui s'est pleinement manifestée en Jésus-Christ, parce qu'il faut, voir que ce message que d'amour et de charité qui nous montre qu'au-delà des réalités matérielles, il y a quelque chose qui se passe dans l'intérieur des cœurs, qui dépasse infiniment les réalités matérielles, ce message a été pleinement amené par Jésus-Christ. Si vous voulez, ce message prend corps en Jésus-Christ. Eh bien, nous devons avoir les yeux levés vers Jésus-Christ et nous devons être persuadés que si nous adoptons une stratégie qui est celle de Jésus-Christ, par une amitié avec lui, en suivant sa volonté, eh bien, en épaulant sa charité et son action de grâce à Jésus, eh bien, au-delà de nos espérances, des fils reviendront de loin et des filles portées sur les bras de notre prière et de notre amour et de nos efforts pour ce qui est de nos propres vies. Oui, soyons convaincus que, par exemple, les gens pour qui nous prions, eh bien, petit à petit, ces gens vont revenir à Dieu. Tous les pans de leur vie, toutes les hostilités vont tomber une à une et vont venir vers ce Dieu, attirés qu'ils sont par la grâce de Dieu, nourris par notre prière aimante et notre charité active pour les gens pour lesquels nous prions. De même, soyons vraiment cette image de l'Église pauvre, humble et priante, et ne nous décourageons pas face à la situation présente de l'Église. Continuons à donner à l'Église ce cœur qui frémit et qui se dilate, convaincu que les gens, eh bien, reviendront à l'Église. Et en revenant à l'Église, tout simplement, ils se tourneront vers Dieu. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Alors, vous voyez ici dans le message historique, je disais que la réalité était bien loin de ça. Finalement, ici, le prophète est en train d'utiliser des images que les exilés avaient, pensant que effectivement Jérusalem allait redevenir le centre commercial, disons, de l'époque de Salomon, et c'est pas le cas. Mais justement, le prophète fait comprendre aux exilés que ce qui amènera les gens à Israël, ce n'est plus ses richesses matérielles, mais spirituelles. De même, nous, comme je le disais, soyons priants et aimants plutôt que d'utiliser la force, les paroles ou des stratégies bien peu chrétiennes, bien peu humaines, mais très humaines, pardon. Épousons la stratégie de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui a aimé jusqu'à se donner, jusqu'à communier à nos péchés pour les ressusciter. Eh bien, si nous avons cette stratégie basée sur l'amour, sur la foi, la prière, eh bien, ces nations viendront, les trésors d'au-delà des mers afflueront. Il faut vraiment en être convaincu parce que ce n'est pas facile. Trop souvent, nous prions pour nos frères et nous sentons seuls, alors que nous avons un trésor en nous-mêmes. Et puis les gens ne viennent pas, semblent indifférents. Eh bien, ayons ce regard du prophète tourné vers l'au-delà de la réalité immédiate pour vraiment, percevoir cette réalité que le prophète nous promet. Oui, c'est la parole de Dieu. Les gens finiront par revenir. La grâce de Dieu finira par venir à bout de tous les obstacles dans le cœur de nos frères. Alors redoublons de prières et d'amour et soyons cette foi, cette espérance vivante au cœur de l'Église. Alors après, on parle de dromadaires de Madian et d'Épha. Alors ça parle forcément aux exilés parce que Madian, c'est l'ennemi de toujours. Dans le livre des Nombres, Madian fait l'objet d'une guerre où Israël se bat contre Madian. Et on parle même de la victoire contre Madian dans un des psaumes. Et les noms sont révélateurs parce que Madian veut dire dispute et Épha obscurité. Voyez, même les Madian et les Épha, les côtés les plus obscurs, tout ce qui se dispute, ce qui est hostile à Dieu, finira par envahir Jérusalem, avoir soif de Dieu. Alors là, c'est un appel à ne pas juger nos frères et à ne pas penser qu'il y a des gens trop loin de Dieu. Plutôt que de juger, aimons et prions pour ces gens, forts de la conviction que personne n'est trop loin de Dieu, ni Madia, ni Epha. Et voilà, tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Alors Saba, c'est bien sûr Salomon. Et ici, bien sûr, ce qui va faire que les gens vont venir, ce n'est plus la splendeur de Salomon, mais c'est bien la splendeur du Dieu de Jérusalem. Si Jérusalem est fidèle à son Dieu par sa charité, sa prière. Et pensons à l'Église qui n'a pas toujours été fidèle à son Dieu dans l'histoire. Eh bien, je crois que ce qui se passe maintenant à l'échelle de l'Église est une bénédiction pour la fin des temps. Parce que l'Église, justement, se fait pauvre et justement, en devenant plus pauvre, plus humble, plus priant, recentrée sur son Seigneur, eh bien, elle va attirer des gens, comme à l'époque des premiers chrétiens. Et ces gens vont apporter l'or et l'encens. Alors, l'or et l'encens, ça nous rappelle bien sûr le chapitre de Saint Matthieu consacré aux mages, qui vont apporter l'or et l'encens. Il faut aussi nous-mêmes être convaincus que notre richesse, ce n'est pas nos traditions, nos rites ou notre personnalité, mais c'est bien le fait d'amener les gens à Dieu. Nous sommes là, et c'est dans la mesure où nous le comprenons. Nous sommes là pour être miroir, pour être porte transparente, pour être icône du Seigneur, parce que c'est eux, Seigneur, qui doivent apporter tous ces gens l'or et l'encens. Tant que nous ne comprenons pas que nous travaillons pour le Seigneur, que c'est le Seigneur d'abord et que nous nous mettons en avant, alors les gens n'apporteront pas l'or et l'encens. Vous voyez, il faut vraiment, à l'image de Marie, dans l'image qui accompagne son Fils, eh bien nous devons être discrets et priants, et l'Église de même. Alors, de même, nous-mêmes, au lieu d'avoir une stratégie centrée sur nos propres forces, sur nos paroles, eh bien, soyons plutôt de ceux qui prient et qui aiment, qui, comme Jésus-Christ, préfère la croix à devenir roi. Et dans cette mesure-là, où nous faisons confiance aux armes spirituelles que sont l'amour et la prière, alors oui, les gens apporteront l'or et l'encens. C'est ça aussi, se mettre en retrait par rapport à Dieu. Et les gens alors proclameront les louanges du Seigneur. Parce que le but ultime de toute vie, et qui germera jusque dans le ciel, c'est bien d'aimer Dieu et de le louer, vraiment se laisser aimer de lui et l'aimer en retour en le louant. Voilà. Donc, ici, cette référence aussi à l'or et l'encens, bien sûr, le prophète n'avait pas en tête le Christ, mais c'est aussi une manière de montrer que la richesse, c'est le Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ qui apporte des armes nouvelles, spirituelles, qui va apporter jusqu'à son accomplissement l'intuition du prophète que tout est spirituel, que les batailles se gagnent d'abord dans le ciel, comme le dit saint Paul, et par les armes de l'amour et de la charité, plutôt que par des stratégies, des stratagèmes, etc. Voilà. Donc, je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, un petit temps de prière. Alors avant cela, il y aura un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, tu veux nous montrer dans ce texte que la réalité dépasse ce que nous voyons. Oui, augmente en nous la foi et l'espérance, et que ceci vraiment nourrisse notre charité et notre ferveur en intercédant pour nos frères et en les aimant. Oui, Seigneur, donne-nous cette vision spirituelle et que cette vision renforcée par la foi que nous avons dans une lecture spirituelle des Écritures, eh bien, que ceci nous pousse et nous nourrisse à aimer et à prier davantage, en étant toujours davantage fidèle à ton Fils. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute.